De quoi votre prénom est-il le nom, le vôtre de prénom, celui que vos parents vous ont donné? Est-ce qu'ils ont fait preuve d'originalité? Est-ce que c'est un prénom qui renvoie plutôt à l'histoire de votre famille, à son environnement, à sa classe, à son époque? Vous vous souvenez du nombre de Brandon, Brenda, Dylan ou Kelly qui fleurissaient il n'y a pas si longtemps dans les maternités? J'y ai pensé quand j'ai lu la popularité des prénoms tirés de la série Game of Thrones aujourd'hui, des Khaleesi, qui d'ailleurs n'est même pas un prénom, des Bran, des Brienne, des Arya, des Sansa. Alors vous pouvez vous moquer, mais figurez-vous qu'au Moyen-Âge, pour les mêmes raisons culturelles, sont apparus nombre de Gauvin et de Lancelot. D'ailleurs, c'est intéressant, les Lancelot étaient d'abord des aristos, avant que la littérature atteigne la bourgeoisie et qu'ils apparaissent dans d'autres classes sociales, petit à petit. Ce que cela nous dit, c'est simplement que la première marque de nos identités, quand bien même nos parents ont pensé faire preuve d'une grande singularité, ne saurait être déconnectée d'un contexte qu'on est dès la naissance plus ou moins assigné dans un monde social, culturel, linguistique donné. Qu'est-ce que votre prénom dit de vous, en réalité? Quelle lignée? Quel hommage? Quelle passion collective dont vous avez sans doute cherché toute votre vie à vous distinguer pour vous réinventer. Mais le prénom, c'est la première pierre qu'il a fallu faire sauter.
Boomerang, Boomerang, Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Êtes-vous sûr de connaître le prénom de mon invité d'aujourd'hui? Il y a 13 ans, vous vous souvenez, il nous invitait à nous relaxer et à la couler douce depuis la sortie 4 albums qui se sont écoulés à des millions d'exemplaires et vous l'avez vu à la télévision dans le télécrochet The Voice. My Name is Michael Holbrook. Son 5e album sortira en octobre. Il a choisi Boomerang pour lancer ce premier single Ice Cream. C'est une sortie mondiale et il est avec nous ce matin. Bonjour Mika.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être
là. C'est un plaisir d'être
ce matin. Comment je vous appelle alors? Je vous appelle Mika ou Michael?
Mika, c'est bon. Mika, en fait, c'est une chose étrange parce que mon nom, c'est Michael Holbrook Pennyman Jr. Et franchement, c'est parce que ma mère, elle est libanaise, américaine, mon père, il est américain, de Savannah, la famille de Savannah, Georgia.
Ok.
Et j'étais né Michael Holbrook Pennyman Jr. parce qu'il y a une tradition. Donc si un jour, moi, j'ai un fils, je dois l'appeler Michael Holbrook Pennyman the Third. Et c'est super intéressant ce que vous êtes en train de dire par rapport au nom juste avant. Parce que moi, j'étais né avec ce nom-là, mais une heure après, ma mère avait décidé à l'hôpital que Michael, c'était un mauvais nom, même si c'était le nom de mon père, et que j'allais être appelé Mika.
Ah, c'est pas vrai.
Donc, dès le départ, j'étais Mika et Michael. Donc, il y avait cette sorte de dualité. J'ai toujours caché le nom Michael. Ça m'énervait beaucoup quand les gens m'appelaient Michael. Et maintenant, c'est le titre de mon nouvel album.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous voulez le retrouver, ce Michael perdu?
Bon, c'est parce que cet album, ça parle d'identité, une sorte de reset. Je voulais faire une sorte de recommencer. Et donc, ça a tout commencé parce que, bon, pendant 4 ans, ça m'a pris 4 ans pour faire cet album. Ça fait 4 ans que j'ai pas sorti un album, ça fait plusieurs années que j'ai pas sorti un single. Et pendant 2 ans de ces 4 années, j'ai rien fait, j'ai rien écrit. Bon, je faisais plein de choses, je faisais des concerts, mais par rapport à l'écriture, j'ai pas écrit parce que je savais pas exactement quoi écrire. Ensuite, j'ai dit, ok, bon, j'ai pris un road trip et je suis allé à Savannah, Georgia, avec mes 2 chiens. Et je suis allé visiter le cimetière de Bonaventure, qui est un des cimetières les plus anciens des États-Unis. Et là-bas, j'ai vu
l'endroit dans le cimetière.
Ouais, un endroit totalement pour la famille de mon père, qui s'appelle les Pennyman. Et là, j'ai vu que tout le monde s'appelait ou Richard, ou Michael, ou Holbrook, ou Frédéric. Et je me suis dit, mais c'est dingue. Et moi, mon nom, c'est Michael Holbrook. Alors j'ai dit, je suis rentré chez moi, et sans savoir pourquoi, je me suis assis au piano et j'ai dit, My name is Michael Holbrook, I was born in 1983. J'étais né en 1983. Et ça, c'était le point de départ pour 2 ans d'écriture pour ce nouvel album.
Qu'est-ce qu'il était devenu, Mika, justement, le prénom? Mais quel personnage est-ce que c'était devenu, que ça a fini par devenir, à votre avis?
C'est moi quand même, c'est une partie de moi. C'est drôle parce que j'avais toujours cette sorte de pression depuis que j'étais jeune. Parce que moi j'ai commencé à chanter quand j'avais 8 ans, j'ai été viré de l'école et ma mère avait décidé que j'allais être un chanteur. Moi je voulais pas. Non mais vraiment, elle avait décidé, elle a dit « toi, ou tu vas terminer en prison ?» Elle me le disait « tu vas terminer en prison ou tu vas faire quelque chose de bien ?» Alors prends la lumière, entraîne-toi, travaille. Et je pleurais tous les jours, mais je m'entraînais. Elle me forçait à m'entraîner 3 heures par jour. C'était comme ça que j'avais commencé.
Ça aurait pu très mal tourner, Mika.
Ouais, mais vous savez, c'est toujours un petit peu comme ça. Au début, on sait pas exactement ce qu'on veut faire. Il faut quelqu'un qui nous pousse dans une certaine direction, mais avec de la discipline. Donc c'est parti de ça. Mais donc j'avais un sorte, elle me disait, une chanson, allez, un disque, fais un truc. Et Mika, ça va être ton nom. Alors, j'avais toujours ce drôle de rapport avec mon nom Mika parce que j'avais cette responsabilité très jeune et j'ai commencé à travailler à 8-9 ans. Donc Mika, c'était aussi un personnage depuis très jeune.
L'identité, quel sujet est-ce que c'est pour vous en fin de compte? Pourquoi est-ce que c'est un sujet que vous n'hésitez jamais à aborder dans vos chansons?
C'est tout.
C'est tout.
C'est entièrement tout pour quelqu'un qui écrit des chansons, pour un auteur-compositeur, pour un interprète même. C'est l'identité, c'est fondamental de regarder chaque. C'est presque comme si on doit le faire dans des chapitres. Chaque 10 ans, on doit regarder qui on est parce qu'on change. C'est ça la chose la plus fabuleuse.
Et
c'est
vous parlez de genre, vous parlez de sexualité, vous parlez de corps, de langue, de pays. Ça vous pose question sans cesse, l'identité?
Absolument. Parce que je suis un mélange et je ne sais pas ce que je suis. Et chaque fois que je change, je dois réexaminer ce que je suis pour comprendre où je vais aller. Parce que sans savoir ce que je suis en ce moment, je suis totalement perdu pour le futur.
Ce qui est intéressant, c'est que la musique fait partie de votre identité, Mika. En quoi elle a défini aussi ce que vous êtes aujourd'hui?
Elle m'a formé, la musique. C'est une sorte de maîtresse, c'est ma femme. La musique, c'est ma femme, plus que la voix. Hein. C'est vraiment ça, c'est pas un rapport très simple, c'est un rapport extrêmement turbulent. On est presque allé en procès plusieurs fois, on s'est presque divorcé plusieurs fois, mais à la fin on revient comme une grande histoire d'amour qui est digne d'un grand film de Visconti. Moi et la musique, franchement, on se tue, on se bat, mais à la fin, on fait l'amour et ça marche.
Ça fait 13 ans que le monde entier vous a découvert. Et pour ceux qui seraient passés quand même à travers l'ouragan que vous avez créé en faisant irruption sur le devant de la scène, ça m'étonnerait, mais quand même, Mika, c'est ça. Et c'est ça aussi quand même. C'était Elle me dit en français.
Elle me dit, écris une chanson contente, pas une chanson déprimante, une chanson que tout le monde aime. Elle me dit, tu deviendras milliardaire, t'auras de quoi être fier, ne finis pas comme ton père. Elle me dit, ferme pas dans ta chambre, vas-y secoue-toi et tombe. Dis-moi c'est quoi ton problème. Elle me dit
des chansons populaires. Popular. I know about popular. And all that you have to do is be true to you. That's all you ever need to know. C'est un drôle de regard.
Parce que c'est drôle, parce que là, c'est une chanson que j'avais faite avec Ariana Grande.
Ouais.
Et c'était avant qu'elle mette les knee-high boots.
Mais Mika, quel regard est-ce que vous portez sur celui que vous étiez il y a 13 ans, celui qui explosait avec la chanson Grace Kelly, qu'on a essayé de chanter avec beaucoup d'embarras, je dois l'avouer, ce matin.
C'est une période où c'était mélangé avec beaucoup de joie et aussi beaucoup de stress, que je me suis pas rendu compte du stress.
Ouais.
C'est ça la chose. Et je vois maintenant des artistes qui commencent avec un début qui explose, par exemple, et certains que je connais. Et je dis, ah là là, vous vous rendez pas compte, parce qu'on peut pas prendre conscience de tout ce qui est en train de se passer. La première fois que ça se passe, c'est une chose différente. Cette vague-là, c'est vraiment quelque chose qui marque, qui change. Il faut bien gérer, bien s'entourer.
Qu'est-ce qu'il y avait derrière ce titre, Grace Kelly? Qu'est-ce que vous y aviez mis?
Ah, il y avait de la rage.
Ah, c'est vrai?
Ah non, bien sûr, il y avait de la rage, il y avait de la haine. Je détestais l'industrie. Parce que ça faisait des années que je me trimballais partout avec littéralement, à partir de l'âge de 13 ans, je rentrais dans les maisons de disques, à la réception, avec un Walkman ou avec un sorte de ghetto blaster, et une cassette, parce que je faisais mes propres maquettes, à mon piano, et je jouais à la réceptionniste, et ensuite je grimpais les étages. Donc elle était embarrassée, elle savait pas quoi faire avec moi, elle m'envoyait au premier étage. Le premier étage savait pas quoi faire avec moi, je terminais au deuxième. Et donc j'avais toujours cette idée de la pyramide, avec le mec au top, et je me suis dit, oh c'est drôle, il y a le Wizard of Oz qui est au top, qui va un jour me signer, et vous savez quoi? À la fin, je vous jure, c'est vraiment comme ça dans les maisons de disques. Ah ben, c'est le grand cliché, mais vraiment, le patron, il est toujours au dernier étage, avec un beau balcon, et c'est là où tu signes si t'as l'opportunité à la fin. Mais il faut se méfier quand même.
Mais musicalement, quand vous écoutez ces premiers titres, vous dites quoi? Vous avez beaucoup progressé, que vous avez beaucoup changé?
Je vois quand même que mon rapport avec la manière que j'écris une chanson, ce discours que j'ai entre moi et les paroles que j'écris sur la page et la musique et les notes que je joue au piano, eh ben il a pas trop changé. Parce que quand même, je cherche mes intentions et ce que je cherche, c'est vraiment c'est la même chose. Bon, le son a évolué évidemment, mais quand même, je cherche la même chose quand même, de me satisfaire, de régler des comptes, de me provoquer. Et de me rendre plus heureux.
Et puis il y a toujours ce jeune Mika qui avait étudié, qui était devenu choriste à l'Opéra Royal à Londres, il est toujours là à chaque fois.
Ah ouais, il est là, et spécialement maintenant parce que la musique classique c'est vraiment une sorte de confort. C'est mon jardin secret, c'est là où je me cache.
Qu'est-ce que vous avez appris là-bas?
La discipline. Il y a vraiment cette idée qu'aujourd'hui avec Instagram ou avec Twitter que tout le monde on est tous des chanteurs tout de suite. C'est pas vrai.
Ah, vous l'avez vu avec The Voice?
Non mais c'est ouais, on le voit avec certains talents, on voit vraiment du talent pur qui est beau mais qui n'est pas encore formé. Eh ben ouais, moi je pleurais le matin parce que je voulais pas m'entraîner pendant 3 heures. J'avais deux profs, une écossaise et une autre professeuse.
On peut dire professeuse
maintenant.
Oui. Bah alors disons professeuse. Alors,
parce que mon erreur est devenue légale. bon, j'espère que ça va terminer mal pour la langue française.
Oui, j'espère aussi.
Non, mais professeuse, j'aime bien.
Un petit peu.
Mais ce que j'avais, c'est que j'avais, ouais, elle était russe et c'était hard, c'était hardcore.
C'est intéressant ce que vous avez dit sur la beauté d'une voix. Vous avez fait un parallèle avec le fait que la voix puisse être formée. Qu'est-ce qui fait pour vous la beauté d'une voix, justement?
C'est ce drôle mélange entre la discipline invisible, donc la technique invisible, pour que ça soit totalement facile. Quand on voit un grand, grand chanteur, ça peut être Frank Sinatra, ça peut être Beyoncé, une grande chanteuse, ou ça peut même être Pavarotti. Qu'est-ce qui sort? Eh ben, c'est ce mélange de la puissance énorme de l'émotion, ça peut être l'émotion chaleureuse ou même du sexe qui sort, peu importe. Mais c'est aussi cette énorme facilité. Et on ne voit pas le travail. Donc c'est vraiment ça. Je pense que je dis toujours que quand on chante, peu importe ce qu'on est en train de chanter, et aussi quand on récite, même des poèmes, quand on récite cette forme-là, on se met à nu beaucoup plus que quand on enlève nos habits.
Vous savez qu'il y en a une qui vous écoute avec attention, qui rêve de faire The Voice, mais qui malheureusement chante très très faux, trop faux, pour passer ne serait-ce qu'une audition, même avec Piston. C'est la culture, Mika, et son actualité Castafiore et Playback. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, vendredi 31 mai?
Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens.
Héros sur scène, aujourd'hui débute à Montpellier dans l'Hérault la 9e édition du joli printemps des comédiens. Nouveauté de l'année, le festival s'ouvre en plus du théâtre au cirque et à la danse pendant un mois. Pas moins de 37 spectacles sont ainsi au programme. Et parmi les créations les plus attendues, Isabelle Adjani dans Opening Night, John Cassavetes, mise en scène par Cyril Test, Une maison, création du chorégraphe Christian Rizzo, ou encore Scala de l'acrobate et metteur en scène Johan Bourgeois, en piste, les artistes.
I would like someone stunning.
Et moi, je voudrais qu'un acteur stupéfiant,
young,
jeune
perfect
et parfait, m'interprète à l'écran.
Let's go, boy! Après Freddie Mercury et Elton John, c'est l'iconique leader du groupe Culture Club Boy George qui va avoir droit à son biopic commandé par la MGM. Le film retracera le parcours flamboyant du chanteur androgyne de Do You Really Want to Hurt Me, de la sensation des boîtes de nuit londoniennes des années 80 à la superstar engagée de la pop musique. Le réalisateur promet un film follement divertissant mais aussi poignant et inspirant, on l'espère surtout queer et subtil du Don't Want to Hurt Me. Et Hollywood à la rescousse, les géants du cinéma américain Warner, Disney, Sony, mais aussi Netflix sont montés cette semaine au créneau pour faire savoir qu'ils pourraient mettre un terme à leur tournage en cours dans l'état américain de Géorgie. On en parlait, Mika, dans le sud du pays, si les autorités mettaient en application une loi adoptée pour restreindre le droit des femmes à avorter. Grâce à des mesures fiscales, la Géorgie avait attiré de nombreuses productions comme Stranger Things, Black Panther ou Avengers Infinity War. Ces dernières semaines, de nombreux états américains, à l'instar de la Géorgie, se sont lancés dans des campagnes inquiétantes de restriction du droit à l'IVG.
C'est pas le quartier qui me quitte, C'est moi qui te quartier. J'ai maillé, maillé, maillé déjà. J'ai pas baillé, baillé, fait des dégâts.
Et on aime le vert, mais on aime aussi le Duxer, week-end soleil, week-end green, week-end de teuf en perspective avec le festival We Love Green qui installe ses boomers au bois de Vincennes pour 2 jours de concerts au calme. Pas moins de 50 performances sont attendues, dont celles de Tame Impala, de Metronomy ou de Laurent Garnier. Mais nous, ce qu'on attend avant tout, c'est le Météor, B2O, le Duc de Boulogne, le rappeur Booba qui sera demain sur la grande scène du festival et puis surtout au micro de Boomerang lundi, c'est pas faute de l'avoir invité. La piraterie n'est jamais finie, comme on dit. Et le musicien et chanteur Mika, invité de Boomerang ce matin pour lancer ce nouveau single Ice Cream, un titre dont vous avez travaillé le visuel jusqu'à la dernière minute, paraît-il, avec votre sœur notamment. J'ai l'impression que chacun de vos projets, c'est toujours une histoire de famille.
Toujours. Je travaille depuis le début avec ma sœur et on travaillait dans la cuisine, maintenant on travaille dans le salon. C'est tout, c'est la seule évolution.
Mais dans quel genre de famille est-ce que vous avez grandi? Dans quel genre de petit monde en fait vous avez grandi? Parce que c'était assez inquiétant quand vous avez parlé de votre mère qui commençait à chanter au début de l'émission.
Non, c'était extrêmement joyeux quand même. On est 5 frères et sœurs, moi je suis au milieu. Alors c'est un clan, on est très proches. Et la plupart sont des artistes, presque. En fait, on est tous des artistes.
Mais très créatives, en fait.
Ouais, mais tout le monde travaille dans l'art aussi. Architecte, designer, tout ça, illustratrice. Et donc, on était quand même encouragés de créer en permanence.
Mais c'était une famille qui était un petit peu à part aussi, Mika. De quel œil est-ce qu'elle était vue dans le très chic 16e arrondissement de Paris où elle s'est installée après avoir quitté le Liban?
On était les gitans du 16e.
Ah, vous étiez les gitans du 16e?
C'est ce qu'ils nous appelaient. Bon, il y avait la mère de Frédéric Mitterrand qui habitait en dessous de nous. Elle pleurait, elle montait, elle pleurait, elle pleurait. Elle disait, s'il vous plaît, taisez-vous, arrêtez de danser le flamenco au-dessus de moi. J'en peux plus. Et elle nous criait dessus. Et à la fin, quand on est parti, elle pleurait. On savait aussi quand il y avait des gens importants qui venaient parce qu'il y avait des voitures dehors, des voitures noires et de la sécurité. Et c'est là où on sortait les claquettes. Alors là, on sortait les claquettes et là, elle était en larmes à fond. Donc,
Vous étiez cruel avec la famille de Frédéric Mitterrand, Mika.
Mais c'était un drôle de rapport parce que nous, on était venus du Liban parce qu'il y avait. Je suis né en 1983 et après un an et demi, c'était assez dur et on était évacués. Donc, en Chypre, ma mère a pris la décision de nous amener à Paris, en France. Et donc, on était un petit peu dans cette sorte de
bulle, en fait.
De bulle, ouais. De cette culture transplantée de Beyrouth où moi, j'ai grandi un petit Parisien pendant 7 ans. Mais quand même, autour de moi, il y avait Férouz, il y avait Nina Simone, il y avait Laurel Canyon, il y avait Bob Dylan. Et ça, c'était vraiment le monde dans lequel on habitait.
Oui, j'ai quand même l'impression, quand même, à vous entendre, que votre histoire, c'est celle de quelqu'un qui, plus d'une fois, s'est laissé rattraper par la violence de la réalité, par la violence des autres. Qu'est-ce qui représente pour vous les autres, tiens?
Les autres, c'est plutôt l'opportunité. Je vois que tout le monde m'apporte, je sais pas, j'ai un bon rapport avec les autres.
C'est vrai?
Ouais, je me protège pas trop, en fait.
Mais le regard des autres à l'époque, quand vous étiez petit, adolescent?
Ah ben, c'est drôle parce que souvent on peut dire, parce que moi c'était dur. Quand j'étais petit, je venais de cette culture. Ma mère était couturière, donc on avait 7 personnes qui étaient toujours en train de coudre. On devait porter toujours ses habits, ce qui était assez excentrique. Bon, tout le monde était en train de porter des t-shirts, des shorts. Moi, j'avais des nœuds papillons et des chemises à polka-dots avec des petits pois partout. Et j'en étais fier, avec des pantalons qui étaient comme des énormes jodhpur indiens. Et tout le monde me regardait un petit peu comme un fric, et moi, je me regardais un petit peu comme si c'était normal. Donc, j'ai souffert... Beaucoup, et par rapport au regard des autres.
Et vous vous réfugiez dans la musique à l'époque?
Et je me suis réfugié dans la musique. Et la musique m'a donné un sorte de pouvoir. Ça m'a donné un sorte de super pouvoir, comme un superpower. Et là, j'ai réalisé qu'il y avait quelque chose qui pouvait transformer ma vie. C'est là où vraiment l'ambition est née d'écrire des chansons, de canaliser ce pouvoir transformatif. Parce que avec une mélodie, on peut faire beaucoup de choses.
Qu'est-ce qui se passe?
On peut lancer des messages que les gens ne veulent pas entendre. On peut se mettre sur une plateforme dans la vraie vie, on est totalement ignoré, ou en fait, pire, on est presque abusé par les gens autour de nous. Et donc là, j'ai trouvé quelque chose, et ça m'a donné une direction. Et c'est pour ça que j'ai pas lâché le morceau.
Et qu'est-ce qui se passe en vous, quand vous êtes sur scène, que la lumière dans la salle se tamise, que les projecteurs sont braqués sur vous et que le public est silencieux et semble vous attendre?
Il y, Qu'est-ce que vous ressentez ? Il n'y a aucune distance, ce mur entre le public, parce qu'on parle toujours du mur entre le public et les performeurs sur la scène, eh ben, il n'existe pas. Il faut le casser, il faut le démonter. Et il faut construire une sorte de rapport. Moi, je dis toujours, c'est un petit peu comme dans Cabaret. Je me souviens, il y avait Joel Grey ou il y avait même Alan Cumming, l'acteur, qui disait « Here, leave your troubles outside. Life is wonderful. » Et ici, laissez vos problèmes dehors. La vie, elle est belle. Mais dans le contexte de Cabaret, c'était tellement dark en même temps. Il y avait tellement de choses dark, une énergie assez macabre, mais quand même, même dans les choses dark, il y a ce côté charnel, malin, qui sauve l'esprit, qui te donne un petit peu de fun, même dans les circonstances difficiles. Eh ben, les concerts, pour moi, c'est ça. Eh ben, on est là pour oublier. C'est pour ça que, on est là pour oublier, pour gérer les choses qui sont difficiles dans la vie. C'est pour ça que je me perds.
En tout cas, vous me donnez le frisson, moi, Mika. Et si vous voulez frissonner, je vous préviens, vous allez en avoir pour votre argent. Voici le premier single de votre nouvel album My Name is Michael Holbrook. Ça s'appelle Ice Cream. Vous êtes sur France Inter avec Mika. Et vous écoutez Boomang, le monde est à toi. When I hear that sound, I know what's coming around. 39 degrees, too hot for the bees. The grass is turning yellow, streets are slow and mellow. It keeps on tripping and the clock, it keeps on ticking. The swimming pool is laughing with its shiny bright blue teeth. Laughing at my body as it's sweltering with heat. The smell of colored plastic, baking in the sun. Sweet just like frustration, my senses.
Trapenard.
On est quand même sur une mignonnerie tout à fait singulière, hein, quelque part entre Charlie dans sa chocolaterie, Jacques sans son haricot magique ou Georges Bouillon et sa potion magique. Il a cet air d'enfant éternel à la Peter Pan, cette lueur un petit peu folle et candide dans son œil d'écureuil, cette exubérance généreuse dans sa boucle brune, cette espièglerie dans son sourire qui n'a rien à envier à celui de Julia Roberts ce matin avec sa chemise blanche qu'il a fait faire, figurez-vous, en allant dans un musée. C'est une chemise modelée sur celle du XVIIe siècle. Le musicien et chanteur Mika, invité de Boomerang ce matin. On vient de découvrir dans son intégralité le titre Ice Cream, premier extrait de votre nouvel album. Comment on fait d'ailleurs pour choisir la chanson qui lancera un nouveau projet, la chanson qui en sera la porte d'entrée, la vitrine?
C'est une superbe question, parce que c'est toujours et spécialement avec un album comme ça. Donc moi, j'écris cette chanson à la fin de l'écriture, à la fin des 2 ans d'écriture. Et avant, j'avais écrit des choses, parce que quand même l'album qui sortira en automne, il y a du lourd dessus, il y a des choses qui étaient très dures à franchir,
oui.
Et douloureux même. Et tout d'un coup, je me suis retrouvé à la fin de ces 2 ans d'écriture beaucoup plus léger, avec un côté beaucoup plus... j'étais prêt à m'amuser beaucoup plus. Il faisait très très chaud, on était en août, je devais terminer l'écriture, je voulais aller à la plage, mais je pouvais pas. Et donc, c'est une chanson qui parle de ce sentiment. Chaque fois que je sortais, il faisait chaud dans le studio, il faisait froid. Quand on ouvre la voiture, il fait très chaud dans la voiture. Le parfum du plastique au bord de la piscine, qui a ce parfum assez sucré qui me fait rêver, franchement. Tout ce sentiment-là, et c'est un mix de frustration et aussi de désir.
Qu'est-ce que c'est pour vous une bonne chanson, Mika, en fin de compte ?
Ben une bonne chanson, c'est une chanson qui évoque. Une chanson, c'est un petit peu comme un parfum. Ça, c'est pas, il y a pas de règle. C'est juste quelque chose qui peut te transporter dans un moment, dans une circonstance. Tu te souviens d'un baiser, tu te souviens de quelqu'un que tu aimais, quelqu'un que tu aimais pas, tu te souviens du feeling la première fois que tu as entendu.
Mais c'est aussi une chanson qui reste dans la tête, non ?
Ah bien sûr, mais là, ça c'est, il faut un hook. Ça c'est à l'américaine.
Moi, qu'est-ce que ça a été le hook pour vous ? Là, c'était un accord, c'était une mélodie, c'était un mot pour ice cream ?
C'était ice cream. Alors c'était littéralement le mot. J'ai dit ce mot-là, ice cream, en toute naïveté. Comment est-ce que je peux jouer avec pour créer quelque chose de beaucoup plus malin.
Et quelle couleur est-ce que ça a fait surgir ? Parce que
bleu.
Je sais, ah oui c'est ça, que les mots chez vous sont associés à des couleurs.
Bleu, ouais, exactement, parce que je vois toujours des couleurs. Alors j'ai vu du bleu et j'ai vu le mot ice cream. Et pour moi la partie qui m'a vraiment mis là-dessus, c'est quand j'ai chanté « Swimming pool is laughing with its shiny bright blue teeth ». Alors la piscine est en train de elle rit sur moi, on dit ça, « laughing at me ».
Vous pouvez tout dire, vous. Elle se moque de moi.
Elle se moque de moi avec ses grandes dents blanche brillante.
Ça fait très peur soudain.
Ouais, exactement, ouais. Mais c'est ça. Bon, alors j'ai choisi ce single parce que c'est une porte d'entrée.
Mais Mika, les couleurs, parce que j'adore cette histoire quand même, que vous voyez des couleurs partout quand vous entendez des mots. Quand vous entendez quelqu'un qui chante faux, quelle couleur est-ce que vous voyez ?
Du gris.
Du gris ?
Ah. Ouais, je vois pas du marron surtout, pas du gris.
Ouais,
vous savez quand on pense
sexy,
on prend des petits cours, est-ce que vous êtes déjà allé faire de la céramique ? Je sais pas.
Non, aux États-Unis, personne ne veut que j'en fasse.
Alors, aux États-Unis, tout le monde a cette obsession pour faire la céramique. Donc, je sais pas, vous y allez, vous payez une fortune pour aller peindre sur une sorte de mug pour offrir à quelqu'un. Vous pensez que vous allez mélanger les couleurs comme tout le monde fait, et ça va être sublime comme dans les films. Et ça sort du four et c'est marron parce qu'on sait pas comment maîtriser la couleur. Eh ben, c'est un petit peu comme ça quand on chante faux.
C'est vrai. Pour en revenir à la genèse de vos chansons, c'est au piano que vous composez toujours ?
Ouais, je l'ai toujours. Et vous savez comment je l'ai eu ? Eh ben, on l'a loué à Paris, et c'était à Paris ce piano. On l'avait loué d'un monsieur, et tout d'un coup, nous on avait eu des soucis d'argent, parce que mon père avait eu des problèmes, alors on a tout perdu dans notre appartement, les huissiers sont venus, ils ont vidé tout. Je me souviens, ils sont venus plusieurs fois, hein. Nous on savait tout faire. On savait toute la légalité, même à 10 ans, 8 ans, on savait quoi dire à les huissiers quand ils venaient pour les empêcher de rentrer dans la chambre.
Vous en disiez quoi ?
Et à la fin ils sont venus. Ah, on disait, parce que si on est juste des enfants présents, eh ben, ils n'avaient pas le droit, donc mes parents se cachaient dans les placards.
Non, et vous mettez le vent pour parler aux huissiers.
Ah bah dis donc. Je ne sais pas si c'est légal de le dire, mais en tout cas, bon voilà, maintenant je peux dire. Mais bon.
Et donc c'est piano.
Alors, ils ont tout pris, et il y avait un canapé rouge. Et il y a aussi ce piano qui est resté. Il voulait pas le piano parce qu'il était tout pourri. Eh ben, c'était bien parce que c'est le piano que mes parents, mon père a amené avec nous à Londres quand on a déménagé. Et c'est sur ce piano-là que j'ai écrit presque, je dirais, jusqu'à présent et aujourd'hui, 70% de toutes mes chansons.
Et c'est sur ce piano que vous avez chanté Elton John?
C'est sur ce piano que j'avais chanté du Elton John, sur ce piano que j'ai chanté plein de différents trucs, hein, que j'ai fait même mes auditions pour les maisons de disques avant d'être signé avant mon premier album.
Comment ça que vous les prépariez ? Parce que vous ne vous déplaciez
pas
avec
non,
le piano.
Non, si. Parce qu'eux, ils sont venus dans mon appartement.
Wow.
J'ai dit, si vous voulez voir ce que je fais, venez dans mon appartement et je vous chante mes chansons. Et c'est comme ça que j'ai été signé.
Ça vous est arrivé, Mika, de chanter Bob Dylan au piano ?
Honnêtement ?
Ouais.
Avant aujourd'hui ?
Ouais.
Non.
Ah, parce que vous dites effectivement que vous allez chanter Bob Dylan et vous avez raison de le révéler aux auditeurs de France Inter, c'est un cadeau que vous nous faites.
Oui, pardon.
Alors ça ne sera pas au piano, ça sera à
ça
la
sera
guitare.
À la guitare.
Et ça sera une chanson qui s'appelle May You Feel My Love.
Exactement.
Pourquoi cette chanson ?
Parce que c'est une des plus belles chansons d'amour. Et ce qui est dingue avec Dylan, c'est que par exemple, moi, si j'essaie de chanter du Elton John, je trouve ça extrêmement difficile. Mais par exemple, avec du Dylan, ça rentre. Il écrit d'une manière où je peux chanter ses chansons. Et lui, c'est vraiment quelqu'un qui... Souvent, c'est un peu comme Leonard Cohen. On ne se rend pas compte de la mélodie qu'il y a dedans quand lui la chante, parce que c'est un énorme songwriter. Et Mr. Tambourine Man, chanté par des autres chanteurs, c'était un tube. Chanté par lui, c'était pas un grand tube. C'est ça, en fait, on a cette notion aujourd'hui des tubes qui est pas extrêmement saine. Mais une chanson peut être chantée d'une sorte de manière comme lui, où on n'aperçoit pas tout. Cette chanson a été chantée ensuite par Adele, par Billy Joel, et c'est devenu un grand tube.
Et ce matin, elle va être chantée par Mika, avec Thomas Naïm à la guitare et Marlène Schaff à vos côtés. On y va.
Et je me lève.
On y va.
When the rain is blowing in your face and the whole world is on your case, I could offer you a warm embrace to make you feel my love. When evening shadows and the stars appear and there's no one there to dry your tears, I could hold you for a million years to make you feel my love. I know you haven't made your mind up yet, but I would never do you wrong. I've known it from the moment that we out of my mind where you belong. I go hungry, I go black and blue, I go crawling down the avenue. There's nothing that I wouldn't do to make you feel. The storms are raging on the road and sea, and on the highway of regrets. The wind and change are blowing wild and free. You ain't seen nothing of me yet. I can make you happy, make you dream. There is nothing that I wouldn't do. Go to the ends of the earth for you to make you feel my love. To make you feel my love.
Wow. La classe! Merci infiniment, Mika, qui reprend Make You Feel My Love de Dylan, accompagné de Thomas Naïm à la guitare et de Marlène Schaff à vos côtés. C'est dans Boomerang exclusivement.
Je dois juste vous dire que, en fait, comme c'est ma chanson préférée, c'est la chanson que j'ai choisie pour un de mes talents cette semaine.
Oh, dans The Voice!
La jeune Whitney.
Bon, la jeune Whitney.
Donc j'espère que je ne la déstabilise pas, c'est un cadeau que je fais à elle aussi.
Merci Mika d'être venu faire un tour dans cette émission. Merci aussi à Rémi Sistiaga et Fabrice Desmas pour la prise de son ce matin. My Name is Michael Holbrook, ça sera en octobre, Mika. Mais le titre, c'est aujourd'hui. Merci aussi à toute l'équipe de Boomerang de retour du Festival de Cannes avec des cernes tout à fait éloquents. Et tout de suite, c'est le rendez-vous de la médiatrice à qui j'ai deux, trois choses à dire, la médiatrice, tiens.